qui essayent de nous enfermer sous-estiment la colère du dollar.
Je voulais les faire payer, ces bâtards qui nous ont piétinés. C'est toujours la même à l'heure qu'il est, ils prennent les familles pour des serpillères.
Dedans c'est dur, dedans c'est dur. Dehors c'est dur aussi, dehors c'est dur. C'est sorti c'est sûr, le SS et le Mirador veulent gâcher nos vies.
Pour les grosses peines, les potes libérables, ceux qui portent le bracelet. Pour les Elvira qui passent le portique et ceux qui font tout rentrer.
Parce que parfois, on a vraiment la rage contre la prison. Parce que ça nous renforce d'écouter les témoignages des autres. Parce que la police et la prison sont des menaces racistes.
Pour les gars de Gide Versailles, pour les gars de Villepinte. Et pour toutes ces visiteuses de parloirs qui font rentrer le sucre et l'espoir. Otages des mêmes portes et couloirs, des mêmes petits pouvoirs.
Armé de peine, j'étais sur le banc, ils m'ont pété, je suis aux arrivants, la fin de...
Je me demande quoi écrire dans mes lettres, qui passera sous la censure, se fera rire, une heure pour se raconter des bouts de vie, à bout de souffle.
Parce que les parloirs sont souvent trop courts. Parce que la radio permet de communiquer par-dessus les murs de la tôle. Casse-muraille. Une émission pour libérer la parole des prisonniers, des prisonnières et de leurs proches. En direct jusqu'à 18h30 sur Prune 92 FM et sur prune.net.
Bonjour tout le monde. On est vendredi, il est 18h. Et donc, comme chaque semaine, vous êtes à l'écoute de Casse-Muraille, une émission anticarcérale. Donc, nous, notre but, c'est qu'il n'y ait plus de prison et plus jamais de personnes enfermées. Et pour ça, en attendant, on vous propose une antenne pour pouvoir raconter des témoignages ou des luttes que vous vivez si vous êtes touché par la prison. Grosso modo, voilà ce qu'on fait. Pour ce faire, on est joignable par téléphone au 07 82 98 43 59. Et aujourd'hui, on a quelques petits trucs à vous raconter.
Pour partager ton histoire, dénoncer ce que tu affrontes ou tout simplement envoyer de la force à l'intérieur, appelle et SMS au 07 82 98 43 59.
Et donc aujourd'hui, on voulait commencer l'émission par vous donner des nouvelles de Ali.
Alors peut-être je vais faire un petit rappel. Ali, pour rappeler ou pour les gens qui n'ont pas encore suivi Casse-Muraille cette année. Ali, c'est un réfugié palestinien qui est en France depuis plusieurs années. Et en fait, en mai 2024, il a été arrêté par les autorités françaises, placé en détention. L'État français lui a retiré son statut de réfugié. Et en fait, il lui serait reproché, d'après des notes blanches des services de renseignement israéliens, d'avoir participé à des actions en Palestine. Et du coup, c'est un peu un truc de ouf parce que c'est quand même quelqu'un qui a été expulsé. Enfin, du coup, en Palestine, il a fait beaucoup de rétention administrative, notamment. Il a été expulsé. Enfin, finalement, Israël l'a expulsé de Palestine. Et c'est comme ça qu'il s'est retrouvé à venir se réfugier en Europe et à obtenir une protection, en fait, puisque en tant que Palestinien, il ne pouvait pas retourner dans son pays.
Et son statut de réfugié a été reconnu.
Voilà, et du coup, à l'époque, le statut de réfugié a été reconnu. Et maintenant, Israël dit non, mais en fait, cette personne a prévu des attaques et tout, mais sans préciser en plus ce qu'il en est.
Et ces accusations ont été obtenues? Parce qu'il est avéré que ces accusations ont été obtenues par des aveux. Dans les prisons d'Israël. Et on sait pertinemment comment sont obtenus les aveux, puisque c'est de notoriété publique. Il y a de la torture, il y a des choses qui sont faites en dehors du cadre des lois internationales qui gèrent la justice ou qui gèrent les droits des prisonniers et des prisonnières.
Voilà. Et du coup, au bout de 2 ans de prison en France, il y a un recours qui avait été lancé au JLD, puisque du coup, il est en détention provisoire. Et donc, normalement, il y avait une audience auprès du juge de la détention et de la liberté pour savoir si oui ou non Ali pouvait être libéré.
À huis clos.
à huis clos.
Oui, c'est important parce que c'est voilà, on veut cacher, on veut
carrément.
Ouais.
Et du coup, bah, sa détention provisoire a été prolongée pour 6 mois. Mmh. Et
ils ont fait appel. Ils ont fait appel.
Ok.
Ouais. Donc voilà, moi je vais vous lire la dernière lettre qu'il a écrite.
Oui, cette lettre il l'a écrite. Je redonne le contexte, c'est parce que samedi dernier, donc dans toute la France, il y a eu des rassemblements organisés par des comités pour la libération d'Ali. Et donc à Nantes, il y a le collectif Kifa qui est déjà venu nous parler plusieurs fois d'Ali dans l'émission, qui avait organisé ce rassemblement. Et cette lettre, il l'a écrite pour qu'elle soit lue dans les rassemblements qu'il y avait dans différentes villes de France.
Salutations à toutes les personnes libres. Mes salutations à vous toutes et tous. Salutations à chaque personne qui croit encore que la justice n'est pas une fatalité et qu'aucune nation ni autorité n'a le droit ni le pouvoir d'écraser la dignité humaine. Salutations à la Palestine opprimée, à ses enfants qui n'ont jamais pu vivre ne serait-ce qu'une journée normale et qui n'ont jamais connu les droits les plus élémentaires de l'enfance. Pas de sécurité, pas de foyer, pas d'avenir clair, seulement la peur, le blocus et la mort qui les attendent chaque matin. Je suis votre frère Ali, le Palestinien. Depuis plus de 2 ans aujourd'hui, je suis détenu dans les prisons françaises. 2 années de souffrance, de douleur et d'interrogation. Chaque jour, je me demandais, comment un pays peut-il devenir complice de l'injustice infligée à une personne qui s'est tournée vers lui en quête de protection ? Je suis un homme dont il a été reconnu qu'il était menacé et persécuté par Israël. Et pourtant, à la demande d'Israël elle-même, j'ai été emprisonné et séparé de mes enfants. Israël a tué mon frère et la France m'a privé de mes enfants. Je n'aurais jamais imaginé, alors que je cherchais la sécurité, que l'entité qui a tué mon frère et m'a privé de mon enfance serait la même qui déciderait de mon sort, même par-delà les frontières. En prison, j'ai appris une chose amère. Il suffit d'être palestinien pour devenir suspect. Mais aujourd'hui, je ne suis pas ici pour demander la pitié de qui que ce soit. Je suis ici pour dire que le peuple palestinien mérite de vivre, mérite la justice, que nous méritons de vivre auprès de nos enfants sans peur, sans blocus, sans être traités comme des criminels, simplement parce que nous sommes nés palestiniens. Nous ne demandons pas l'impossible, nous ne demandons ce que tout être humain sur cette planète demande, la liberté, la dignité et la justice. Et si ce monde a perdu une partie de son humanité, nous sommes ici, aujourd'hui, pour lui rappeler que l'humanité vit encore dans les voies des femmes et des hommes libres. Liberté pour la Palestine, miséricorde pour les martyrs et dignité pour tous les opprimés. Votre frère Ali, prisonnier palestinien sur les terres françaises.
Ok, merci pour la lecture. Est-ce qu'il y avait quelque chose à rajouter peut-être sur le sujet ?
Non, bah, on peut réagir un petit peu à sa lettre qui est un peu bout en train, quoi, je trouve.
C'est vrai.
Bah, elle parle avec ses tripes, hein, il est en prison, mais il subit une injustice et c'est un peu un appel désespéré. Mais digne, parce qu'il ne demande pas de la pitié, il demande simplement la justice et l'égalité des droits, l'égalité de traitement. Voilà, des choses aussi simples, aussi banales. Là, on va écouter un morceau de Yves Flawen, Barwagia, c'est sur les prisons algériennes.
سيدي في كردان في بروقيا هادشي غبر مذبركان في بروقيا انا محبوس سيدي في كردان في بروقيا هادشي غبر مذبركان في بروقيا فين كان جغت تروم بيعدل الاعوام وقد غديت تسوم
يدي نقسام
Et vous êtes toujours à l'antenne de Casse-Muraille. Et pour continuer l'émission, on voulait relayer le combat de la famille de Théo Sana, qui est décédé à la prison de Fresnes le 11 janvier 2022. Et donc, du coup, sa famille a appris son décès donc, le 11 janvier 2022, pas par la prison, mais par... Enfin, en fait, bon, j'essaie d'être claire. Théo Sana, il était en détention provisoire, du coup, à la prison de Fresnes. Le 11 janvier 2022, il devait passer en comparution immédiate. Et c'est sa mère, en se rendant donc à l'audience de comparution immédiate pour le soutenir face à la justice, qui a appris de la bouche de la juge que l'audience ne se ferait pas parce que l'accusé était décédé. Et c'est comme ça qu'elle a appris la mort de son fils. La famille a déposé plainte donc, contre la prison et les matons pour homicide involontaire et non-assistance à personne en danger. Et il y a une enquête qui avait été ouverte au tribunal le 11 septembre 2023. Là, récemment, la juge d'instruction a clos l'enquête sans mise en examen parce qu'elle considère qu'il n'y a pas eu de faute disciplinaire des matons et qu'il n'y a pas non plus d'omission volontaire de lui porter secours à Théo Sana par les matons au moment de sa mort. Et donc la famille vient de saisir la justice administrative pour faire reconnaître la responsabilité de l'État et de l'administration pénitentiaire dans la mort de Théo Sana. Peut-être qu'on peut essayer de vous remettre un peu en contexte comment il est décédé.
Ouais, on s'est dit que c'était l'occasion de revenir un peu sur ce qui s'est passé, parce que là, l'actu, c'est vraiment la saisine du tribunal administratif par la famille, mais c'est vrai que du coup, ces dernières années, on n'en entendait pas trop parler. Mais oui, c'est l'occasion de redire un petit peu les circonstances horribles de son décès, franchement.
Carrément. Théo, il était en cellule, il était en gestion équipée. C'est-à-dire que sa cellule était ouverte uniquement par les ELAC, donc des matons qui sont cagoulés, casqués, équipés, quoi. Ça, c'est parce que l'administration pénitentiaire l'avait étiqueté détenu radicalisé. Ce qui, plus tard, elle reconnaît s'être trompée, en fait, sur cet étiquetage. Il faut savoir que Théo, il avait fait déjà plusieurs fois des allers-retours en prison. Et la paix, là, d'un coup, s'était trompée, l'avait du coup mis dans cette gestion équipée. Lui, il était en situation de grande souffrance psychique. Il avait demandé à rester à l'UHSA, donc l'unité hospitalière de la tôle, mais le psy de la tôle a décrété qu'il simulait. Et donc, il a refusé qu'il reste en UHSA et qu'il ait un traitement psy. Sa compagne, dans ses témoignages, elle dit que Théo, il avait une reconnaissance, il me semble...
Par la MDPH, je crois.
Par la MDPH,
il avait droit à la hache.
Ouais. De sa souffrance psy, du coup.
Ouais.
Mais là, lui, le psy de la tôle, il décide que ça n'existe pas et que c'est juste du cinéma, quoi.
C'est quand même dingue que, par erreur, ils lui mettent quand même un sigle dans son dossier qui a des répercussions hyper fortes sur sa détention et que, parallèlement à ça, genre, il n'y a pas de prise en compte de sa souffrance. Et du coup, là aussi, ça a un impact hyper fort sur sa détention, mais en mal, quoi.
Ouais,
c'est vraiment la double peine, mais alors là, je sais même pas combien ça fait de multiplication, mais c'est affolant, quoi.
Ouais, c'est clair. Et parce qu'en plus, l'étiquetage détenu radicalisé, c'est en effet, c'est pas sans conséquence. Enfin, là, on le voit, il avait la gestion équipée. Ça fait plein d'interactions différentes, en fait, avec la matonnerie. Ce qui, au passage, ne risque pas d'arrêter à se produire, parce qu'on a appris cette semaine que le nouveau directeur de l'administration pénitentiaire avait été nommé par Darmanin, et c'est monsieur Pascal Courtade qui a participé à la rédaction du rapport sur les frères musulmans en France.
Super.
Donc un bon islamophobe, donc je pense que le sort des prisonniers étiquetés islamistes ou radicalisés va pas s'améliorer, quoi.
Oui, puis enfin, on peut imaginer que les détenus qui sont étiquetés comme tels, l'islamophobie fait qu'il y a quand même quelque chose où on se dit, bah, en fait, ils sont radicalisés, donc on ne croit pas ce qu'ils disent, en gros.
Ouais.
Et du coup, il y a un truc de non-prise en compte aussi de sa souffrance. À quel moment il n'y a pas une interaction aussi de se dire, bah, en fait, juste ces gens-là sont déshumanisés à un point qui fait que même quand ils expriment, même physiquement, parce que tu vas peut-être nous dire un peu ce qu'il en était de son état psychique et du coup de comment il pouvait s'occuper de lui-même, mais c'est hardcore.
Ouais,
et c'est absolument pas pris en compte.
Bah oui, carrément, ce que tu me dis, ça me fait penser du coup à la mort de Sambali Diabaté en 2016 à Saint-Martin-de-Ré, où Sambali, du coup, il avait perdu. Enfin, pareil, il était en souffrance psy, il avait appelé sa sœur, il avait perdu 30 kilos, je crois, entre les deux visites de sa sœur. Elle s'inquiétait énormément pour lui. Et dans les justifications que les matons ont données pour l'agresser et que cette agression provoque sa mort, et bah, il y avait le fait qu'il psalmodiait. Il psalmodiait. Ça, c'est un truc qu'ils disent, c'est ce qu'il y a... Enfin, je sais pas, c'est comme un truc qu'ils racontent à charge dans leur dossier, quoi.
Ouais.
Et donc, Sambali Diabaté était musulman aussi. Bref, c'est ce que tu disais qui m'évoquait ça, quoi. Et du coup, Théo Sana, il sortait plus de sa cellule, il mangeait plus, il parlait plus, il se levait plus. Du coup, il s'urinait dessus. Sa cellule a été, quand il a été retrouvé mort dedans, a été jonchée de déchets et de pisse. Ça se voyait, quoi, qu'il était en situation de grande souffrance, et les matons, ils ont vu son état se dégrader de jour en jour sans réagir, jusqu'au jour où il retrouve mort dans sa cellule. Évidemment, ses proches veulent faire reconnaître la responsabilité de l'administration pénitentiaire là-dedans, parce qu'ils estiment que c'est pas normal que Théo Sana soit décédé comme ça. Ce à quoi on se joint complètement.
Oui,
on espère qu'ils vont obtenir ce qu'ils veulent. Et peut-être qu'on peut écouter un audio du coup de sa... C'est sa compagne qui est passée dans l'émission de L'Envolée du 20 juin 2025 et qui raconte un petit peu comment ça s'est passé pour eux et les échos qu'ils ont eus de la situation de Théo. Alors, on n'a pas le temps de vous passer toute son interview, mais vous pouvez la retrouver sur le site de l'envolée.net.
Oui, on a fait juste un petit cut.
Pour revenir juste rapidement là-dessus, c'est pas en mode ils sont venus voir la mère au tribunal pour la prendre à part et lui annoncer que son fils était mort. C'est juste à l'audience, ils étaient là en mode, en fait, voilà, je sais pas si tu veux raconter.
C'est juste ça, et en plus de ça, soi-disant, ils ont découvert le corps le jour même. Donc, soi-disant. Donc, ils n'ont pas appelé du tout. Je ne sais pas, moi, peut-être qu'on l'a su tard dans l'après-midi, alors que depuis le matin, et je crois qu'ils ont fait semblant aussi qu'ils ont appelé, dans mes souvenirs, parce que c'était tellement un choc que je n'ai pas les idées claires, mais je crois qu'ils ont fait semblant qu'ils avaient appelé, mais genre, pour eux, ils ont appelé le frère, et c'est bon, ils ont appelé tout le monde. Franchement, je trouve ça tellement aberrant. Et en fait, quand on est reçu mal aussi, on est mal reçu. Je suis dans le froid, on m'a reçu 5 minutes chrono. Il faisait très froid, j'avais mon bébé qui commençait à pleurer, donc je ne pouvais pas rester trop longtemps. Vraiment, c'était... Au début, c'était vraiment un choc. On ne réalisait pas vraiment, parce que... À chaque fois, on découvrait des choses. Apparemment, il y a eu une altercation avec les ELAC. Il y a une vidéo qui a été... On nous a envoyé, donc via les détenus, où on le voyait avec un t-shirt parler au loin, dire qu'il s'était battu avec eux. Et eux, ils disent qu'il ne s'est jamais rien passé. Donc, jusqu'alors, on n'a pas de... On ne sait pas réellement ce qui s'est passé. Donc, heureusement qu'on a eu cette vidéo pour qu'on voit qu'il y a une altercation. Mais il y a aussi le volet où, entre-temps, avant d'arriver, d'être incarcéré à Fresnes, il a été privé de reconnaître sa fille. Donc, j'avais appelé le commissariat pour savoir à quel moment il allait reconnaître la petite, puisque à l'hôpital, maintenant, l'état civil ne passait plus, enfin, à cette époque en tout cas, il fallait directement aller à la mairie. Et on m'a dit, bah, il s'est mal comporté, donc on ne l'a pas laissé y aller, sinon on l'aurait laissé aller. Alors que sachant qu'il avait des troubles, il avait une crise en fait, il savait très bien qu'il avait une maladie, il était reconnu MDPH. Et du coup, j'ai dû aller reconnaître ma fille toute seule. Donc je venais d'accoucher, donc il faut savoir quand on vient d'accoucher, au moins pendant 2 semaines, on ne peut pas marcher, donc j'ai dû y aller. J'ai dû y aller dans l'urgence, j'ai tout envoyé à la prison, les papiers... rien n'a été fait, rien n'a été transmis. Là, ça veut dire que par la suite, bah, j'ai dû faire une reconnaissance post-mortem qui était très coûteuse. Donc j'ai dû prendre un avocat, mais aujourd'hui, heureusement, elle porte son nom. Donc, mais voilà, la prison, ça n'a pas... Déjà, il y a un décès, c'est pas normal qu'on n'ait pas de réponse, parce qu'on est là dans l'attente, ça fait 3 ans et demi. Il y a une enquête qui dure, mais ce qui me paraît aberrant, c'est qu'il y a une enquête. Je vivais avec lui, j'ai un enfant avec lui, on ne m'a jamais appelé, on ne m'a jamais contacté. Je ne comprends pas comment l'enquête est faite, mais bon. Et en plus, on apprend des choses dans des articles qui sont vraiment... Enfin, moi, j'ai réussi à le lire, mais la plupart de sa famille n'a pas réussi à le lire parce que l'article est vraiment très choquant.
Casse-muraille, une émission pour libérer la parole des prisonniers, des prisonnières... et de leurs proches.
Donc voilà, bah on souhaite bon courage et plein de force à la famille dans cette épreuve judiciaire dont il se serait bien passé, j'imagine. Et puis si on a des nouvelles, on n'hésitera pas à vous en donner. Pour la suite, on avait envie de vous parler de l'annonce d'un projet d'ouverture d'une salle d'audience pour un JLD dans le CRA de Toulouse. Pour l'instant, c'est en projet, c'est pas encore construit. On a appris ça sur le site info Anticra Toulouse.
Ouais.
C'est ça le.
Ouais. Toulouse Anticra.
Ouais. Et en fait, c'est un projet qui a été lancé par la loi Asile-Immigration de 2024. Dedans, il est prévu qu'il y ait, entre autres, du coup, l'ouverture de salles d'audience pour les JLD dans les CRA. Et là, celui de Toulouse, c'est prévu pour, je crois, le printemps 2027.
Ouais, il me semble.
Mais ils ont commencé un peu les trucs d'appel d'offres, de budgétisation et tout ça.
Oui, c'est quelque chose qui semble souhaité généraliser au bout d'un moment. Je ne sais pas, ce serait intéressant de voir les plans de ce qu'ils voient, de construire. Dans le CRA de Nantes pour voir s'il prévoit une salle d'audience comme ça aussi ou pas directement. Et bah, évidemment, ça a des conséquences, puisque ça a fait que le juge de la liberté de la détention, c'est déjà grave une justice d'abattage où il y a je ne sais pas combien de personnes qui sont retenues dans le CRA qui passent devant le JLD, puisqu'elles doivent être présentées au JLD dans les premiers jours suite à leur arrestation. Et que souvent, enfin, il y a des avocats, mais ils ont à peine accès au dossier. Il y en a qui, enfin, ils rappelaient dans l'article de Toulouse Anticra, et des avocats, ils plaident même pas.
Ouais.
Enfin,
puis
voilà,
ils passent en groupe avec des délibérés collectifs. Enfin.
Oui.
C'est complètement hallucinant. La justice, même pas individuelle. Enfin.
Ouais, c'est dépersonnalisant de ouf.
Ouais.
Et du coup, le JLD qui a sa salle d'audience dans le CRA, moi, je trouve que ça fait aussi un biais en plus, bon, pour le JLD qui n'est déjà pas un camarade, mais que en fait, son bureau de travail ce jour-là, il est dans la prison. Donc c'est comme si ses collègues, c'était la PAF finalement. Et du coup, bah, j'imagine qu'il va moins dédier leur travail, tout ça. Fin...
Oui, oui, carrément. À la fois, ça rapproche le JLD de la PAF et ça éloigne la salle d'audience quand même de la ville où peut y avoir du soutien, des gens qui viennent voir les audiences, enfin, mine de rien, je trouve que ça fait de la force en moins aussi pour les personnes qui passent en jugement, quoi.
Carrément. Et que ça fait qu'elles sortent pas du CRA.
Exactement.
Donc, c'est une mauvaise nouvelle. Et dans le même style...
Ouais, j'allais dire une deuxième mauvaise nouvelle.
Ouais. On a rarement des bonnes. Des évasions, de temps en temps. Dans le même style, il y a Darmanin, la semaine dernière, du coup, vu qu'on enregistre. C'était ce matin, nous, dans notre vraie vie, mais qui est allé visiter la prison de Fleury-Mérogis, qui est la plus grande prison d'Europe. Youhou. Et il a annoncé du coup que il va faire construire, pareil, 2027, je crois. Enfin, il prévoit une ouverture en 2027, une salle d'audience spéciale grand procès dans l'enceinte de la prison, afin de ne plus avoir à extraire les prisonniers pour leur procès et limiter le risque d'évasion et avoir moins de policiers ou des RIS ou quoi à mobiliser pour ça. Et il prévoit aussi l'ouverture d'une grande salle de grands procès sur l'île de la Cité, donc dans le vieux tribunal de Paris, tout en disant que ça ne sera qu'à 30 minutes du QLCO qui prévoit de faire ouvrir à Réo. Donc il nous fait un petit peu, tu vois, le maillage de ces projets dégueulasses en Île-de-France pour en fait, que ce soit encore plus compliqué de prévoir une évasion au moment de l'extraction pour un procès. Et pareil, quoi, ça va faire une justice qui va se passer en fait, dans l'enceinte de la tôle, où du coup, on imagine qu'il ne pourra pas y avoir de public. Pas l'occasion de sortir de la tôle pour le procès, enfin tout ça. Quoi.
Oui, oui, que, ça crée un huis clos qui est quand même... qui réduit de ouf les marges de manœuvre possibles pour les personnes à l'intérieur. Quoi.
Ouais, de ouf. Et puis comme bien souvent, il mobilise des figures de gens qu'il a érigés en figures de monstres pour justifier ses projets, bah là, il se sert de prétexte du procès de l'évasion de Amra, qui est à venir, qu'il prévoit pour 2028, et affaire dans laquelle il y a déjà 50 personnes mises en examen, dont 20 qui sont en détention provisoire. Voilà. Des belles choses à venir.
Ouais.
Ça va être la fin de l'émission. On va pouvoir se rappeler les contacts avant de se quitter. Vous pouvez nous joindre par téléphone au 07 82 98 43 59.
Et vous pouvez nous écrire à Casse-Muraille, chez les 17, 17 rue Paul Bellamy, 44 000 Nantes.
Carrément. On vous souhaite une bonne semaine. Force et courage à tout le monde. Et à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Au revoir.
Pour partager ton histoire, dénoncer ce que tu affrontes ou tout simplement envoyer de la force à l'intérieur, appelle et SMS au 07 82 98 43 59.